Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Être trans, c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on a assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, ils pensaient que j'étais une fille, mais en fait, non.
Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus.
Ce soir, dans Non mais genre, pas d'émission à proprement parler. L'hiver est là. On pourrait dire que l'équipe hiberne. Que certains sont occupés à panser leurs plaies dans les deux orthographes. Que d'autres courent avec des emplois du temps chargés. Ou les deux. Nous avons nos raisons, mais nous sommes en veille, malgré tout. Toujours préoccupés par les causes qui nous réunissent autour des micros du studio de Radio Alpa. Nous agissons dans nos quotidiens ou dans d'autres collectifs. C'est le cas de deux d'entre nous au sein du collectif Gangrène qui produit des fanzines féministes. Nous venons de publier le numéro 5 que nous présentons ce week-end aux Beaux-Arts, les 27 et 28 novembre, les Beaux-Arts du Mans, dans le cadre de l'événement Grand Print consacré à la micro-édition. Venez donc rencontrer l'équipe, vous essayer à la Lino ou découvrir notre dossier consacré aux migrations, thème cher à l'équipe de Non mais genre. Aussi ce soir, nous vous proposons l'écoute d'une émission adhérente au réseau Radio Rageuse, un réseau d'émissions féministes trans PD Gwyn. Il s'agit d'une émission intitulée « Une analyse féministe des frontières » de l'émission « La revanche des hérissons » de Jet FM, une radio associative nantaise. Bonne écoute.
Salut, c'est La revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, Gwyn, meuf et féministe.
Ça va piquer. Ça va gratter. On parle de l'actu, on fait des reportages, on dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte.
On prend la parole et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission féministe et transpédéguine, La revanche des hérissons. Alors aujourd'hui, c'est une émission qui a été préparée par tous les hérissons, même si on n'entend pas toutes les voix dans l'émission. On avait envie de parler de frontières et des femmes qui parcourent et vivent avec la frontière. Parce que les femmes se déplacent beaucoup et qu'on en parle peu dans les discours médiatiques et politiques. Parce que surtout, on parle peu des conséquences des politiques européennes des frontières sur les femmes, sur leur parcours migratoire et sur leur vie. Parce qu'on parle peu aussi des violences sur les femmes que produisent et renforcent ces politiques. Parce qu'on parle peu, enfin, des stratégies de survie et de résistance dans tout ce gros merdier des frontières. On a eu envie de discuter de tout ça avec Camille Schmoll, chercheuse féministe en géographie, qui a travaillé sur le sujet pendant plusieurs années. Elle en a écrit un livre, « Les damnées de la mer, femmes et frontières en Méditerranée », sorti en 2020 aux éditions La Découverte. Camille Schmoll a passé du temps à observer des lieux frontières, notamment des centres, en Italie et à Malte, où sont triées, hébergées entre guillemets et enfermées des femmes migrantes. Des lieux où les politiques de tri, de criminalisation des migrations et de construction de la forteresse européenne sont particulièrement visibles. Elle a également rencontré des femmes à différents moments de leur migration et recueilli leurs récits pour construire son analyse. On a eu une longue conversation téléphonique avec Camille Schmoll au sujet de son travail. On espère que ça nourrira nos analyses, nos rages et nos luttes.
Allô.
Allô, bonjour Camille, c'est Gary de La Revanche.
Bonjour Gary.
Pour commencer, nous on avait envie de te demander
Comment t'en es arrivée à travailler sur les frontières, sur les migrations et sur les femmes en migration ?
Alors, en fait, y a deux questions. Il y a la question des femmes en migration et la question des frontières. En fait, la question des femmes en migration, c'est venu assez tôt dans mon parcours. Pendant mes premières années de recherche, je me suis rendu compte de l'importance des femmes dans ces migrations. À l'époque, c'était pas du tout travaillé et surtout, on travaillait beaucoup en fait sur les femmes maghrébines en tant qu'épouses, en tant que suivantes, mais très peu en tant que femmes qui pouvaient aussi prendre la décision de migrer seule ou accompagnée, mais en tout cas pas dans le cadre du regroupement familial. Donc ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Et c'est ça qui m'a amenée au genre, en fait. Moi, au début, je travaillais pas spécialement sur les questions de genre. Et ben, voilà, ça m'a amenée à approfondir toutes ces questions-là. Et pour les frontières, c'est un peu différent. Parce que autant j'ai commencé il y a assez longtemps à travailler sur les femmes en migration, autant les frontières, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé progressivement. Et qui est lié en fait au durcissement progressif, parce que c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Dans le livre, je raconte dans Les Damnés de la Mer que ça fait 30 ans en fait que petit à petit cette frontière externe de l'Union européenne se verrouille progressivement. Et en fait, ce à quoi on a assisté dans les 10 dernières années, c'est vraiment un renforcement très important, à une intensification de politiques frontalières très dures. Et donc c'est venu progressivement, hein. C'est monté progressivement. Plus ça allait, plus je voyais que les mobilités des femmes étaient devenues difficiles, qu'elles avaient du mal à venir. Les premières femmes que j'ai rencontrées, elles circulaient, elles faisaient des allers-retours, ça posait aucun problème. Et puis petit à petit, il y a eu ce que beaucoup de chercheurs et de chercheuses appellent une illégalisation ou une criminalisation des migrations. Donc tout d'un coup, les personnes ont commencé à venir plutôt par des voies irrégulières que par avion, par exemple. Donc emprunter la mer, emprunter les routes. Et puis, petit à petit, ça s'est devenu de plus en plus dur. Hein. C'est un peu ce que je décris dans le livre. Donc la frontière, elle est devenue de plus en plus... Finalement, présente dans les observations que je faisais, et d'où l'idée aussi à un moment donné d'écrire dessus, quoi.
Tu disais que les femmes, elles bougent. C'est aussi un truc que tu dis dans ton livre, que les femmes, elles bougent depuis longtemps et elles bougent massivement, contrairement un peu aux idées reçues sur la migration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, alors les femmes bougent, effectivement, je dis dans le livre que les femmes bougent et qu'elles ont toujours bougé. C'est-à-dire cette idée, ce mythe hein, qui est très présent dans nos représentations, dans notre littérature, dans beaucoup de domaines, en fait, cette idée de la femme qui attend patiemment et sagement son compagnon parti à l'aventure, c'est quelque chose qui, en fait, n'a jamais existé et n'a jamais existé nulle part, en fait. Les femmes ont toujours été mobiles. Alors, certes, leur mobilité est beaucoup plus régulée, beaucoup plus scrutée, normée. Hein, c'est ce que je raconte un petit peu dans le livre quand je parle des géographies morales, de la façon dont il y a toute une série de stéréotypes autour de la mobilité des femmes. Et donc, on essaye de contrôler, en fait, cette mobilité en leur imposant des règles, ne pas sortir à certaines heures, ne pas sortir seule, etc. C'est des choses qu'on peut voir, y compris au quotidien, dans nos vies, pas seulement pour les femmes migrantes, la façon dont la mobilité des femmes est toujours, en quelque sorte, suspecte ou invisibilisée. Hein. Les femmes elles-mêmes, ce que je raconte dans le livre aussi, c'est que les femmes ont tendance à minimiser leur propre mobilité. Elles disent « Non, mais moi, c'est rien. C'est ce que j'ai fait, c'est rien par rapport à ce qu'il a fait, toujours par rapport à celle des hommes. » Et dans les travaux de recherche, ça a pendant longtemps aussi été minimisé, même si, bon, ça fait quand même maintenant une bonne trentaine, voire une bonne quarantaine d'années qu'il y a des chercheuses qui s'intéressent à cette question des femmes en migration. Et alors, dans les médias, les médias les plus regardés, les plus écoutés, c'est vrai que souvent, quand on représente les migrations actuelles, notamment les migrations africaines vers l'Europe, on les représente comme des migrations essentiellement masculines. Or, non seulement il y a beaucoup de femmes dans ces migrations, mais en plus, il semblerait qu'elles soient en augmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne sur cinq, à peu près, parmi les personnes qui arrivent au sud de l'Europe, alors certes, c'est pas la majorité, mais c'est quand même pas mal, soit une femme. Donc, c'est en plus, c'est un phénomène qui, a priori, même si c'est toujours difficile d'évaluer, serait en augmentation.
Un truc qu'on a trouvé super intéressant dans le livre, c'est que la manière dont tu analyses le parcours des femmes en mouvement, ça t'amène à remettre en cause une distinction entre migration forcée et migration volontaire. Est-ce que tu peux nous expliquer cette distinction et nous raconter pourquoi l'analyse des mouvements des femmes permet de remettre en cause cette distinction-là?
Il est vrai, dans ce livre, j'ai essayé de remettre en cause cette distinction entre migration forcée et migration volontaire, parce que, là j'avoue, j'ai un petit peu instrumentalisé aussi les histoires des femmes et ce qu'elles me racontaient, parce que, en fait, c'est le béaba du discours politique aujourd'hui. On va vous dire, quelque part, il y a des migrants qui sont méritants parce que eux, ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas le choix, et il y a des migrants qui sont pas méritants parce que eux, ils auraient pu choisir de rester chez eux. Bon, si on essaye de décortiquer les choses une minute, ça n'a aucun sens. Mais surtout, ça n'a aucun sens d'abord parce que politiquement, on peut se demander pourquoi, après tout, on devrait être plus méritant parce qu'on a été chassé plutôt que si on a, voilà, on a entrepris cette migration aussi de plein choix. On pourrait se demander après tout, mais surtout, et puis on pourrait s'interroger sur ce que c'est que le choix et la contrainte aussi, parce que la pauvreté est une contrainte comme une autre. Alors que souvent, quand on parle de migration contrainte, on pense aux migrations et aux migrantes et aux migrants qui fuient la guerre, la persécution. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'était qu'au départ, les raisons étaient intriquées et qu'on pouvait pas faire la part des choses, parce que il y a à la fois des raisons qui sont liées au contexte dans lequel vivent ces femmes, la pauvreté pour certaines et pas pour toutes d'ailleurs, la guerre civile, le fait de vivre dans un régime autoritaire, mais il y a aussi des violences de genre, des violences qui sont liées au fait d'être une femme, donc des femmes qui ont subi parfois des violences de genre ou qui voilà, ou qu'elles soient mariées dans le cadre de mariages arrangés, ou qu'elles aient vécu ou que leurs filles parfois ou des membres de leur famille aient vécu certaines violences et qu'elles souhaitent les éviter. Il y a aussi des femmes qui sont en quelque sorte affranchies au sens où elles ont décidé de se séparer ou elles ont décidé de ne pas se marier justement. Donc il y a toutes sortes de situations liées aux inégalités de genre, mais il y a aussi des raisons un peu plus qui sont pas seulement de l'ordre de la contrainte, c'est-à-dire simplement comme le dit très bien une des femmes que j'ai rencontrée, Julienne, trouver sa place, se positionner dans la société, c'est-à-dire finalement un désir de mobilité sociale, d'ascension sociale que la migration permettrait. Et donc ces femmes, patiemment, elles vont mettre de l'argent de côté pour essayer de pour se payer le voyage. Donc elles vont faire des petits commerces, elles vont s'organiser en quelque sorte leur migration, parce que pour elles ce sera une façon d'améliorer leur situation. Et donc c'est pour ça que je dis que dans chaque migration, dans chaque parcours migratoire, même quand on vient des situations les pires, il y a toujours une poussée d'autonomie, il y a toujours une volonté d'améliorer les choses. Et c'est pour ça que c'est difficile de distinguer migration contrainte de migration volontaire, parce que dans toute migration, il y a une part de volonté et elle est en quelque sorte irréductible. Au contraire, j'aurais presque envie de dire, elle se renforce au fil des obstacles, en résistance en quelque sorte.
Et est-ce que justement, en parlant d'obstacles, toi, tu peux nous raconter un peu les obstacles spécifiques que les femmes, elles, rencontrent sur leur parcours ?
Alors, tous les parcours migratoires aujourd'hui, ces parcours-là en tout cas, parce que c'est pas là, il faut peut-être le rappeler, je peux vous parler des obstacles que rencontrent ces femmes sur les parcours. Il faut quand même rappeler que ces migrations-là, c'est-à-dire ces personnes, hommes et femmes, qui traversent une partie de l'Afrique, qui traversent la Méditerranée de façon dite irrégulière, puisque c'est le terme employé par Frontex, par exemple, en fait, ce sont une minorité, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en Europe avec des visas, qui viennent en Europe dans d'autres façons. Mais en tout cas, ces personnes-là que moi j'ai suivies, qui donc traversent la Méditerranée en bateau, qui ont traversé, quand je les rencontre, la Méditerranée en bateau, elles ont rencontré toutes sortes d'obstacles. Alors, ce sont des obstacles qui peuvent être liés à la fois au passage de frontières, qui sont ces moments où on risque gros, à la traversée du désert, qui est un moment absolument terrible, mais aussi à la situation dans les lieux où, dans les lieux traversés, et notamment, ce qu'on connaît le mieux finalement et ce qui est le pire de ces trajectoires, c'est la traversée de la Libye, puisque la Libye est dans une telle situation de chaos qu'en fait ces migrantes et ces migrants se retrouvent eh bien à la fois parfois pris en otage, emprisonnés. Bon, on a vu les images il y a quelque temps déjà maintenant de la CNN sur la mise en esclavage de ces personnes, toutes sortes de péripéties qui sont pas liées d'ailleurs au fait d'être un homme ou une femme, si ce n'est qu'effectivement on sait que les femmes sont encore plus sujettes à subir toute une série de violences, et notamment les viols. Donc il n'y a pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin ça n'a aucun sens, mais tout le monde est violé en Libye. C'est pas une question de genre quelque part, mais malgré tout, les femmes subissent encore plus. Aujourd'hui, de toute façon, c'est devenu tellement, tellement terrible la situation en Libye que toutes les personnes qui arrivent de Libye ont subi toutes sortes de violences, mais les femmes encore plus, a fortiori. Et donc, c'est souvent la situation qu'on. Enfin, moi, c'est la situation aussi que j'ai envie de faire connaître, parce qu'elle est connue en fait. Maintenant, on sait très bien ce qui se passe en Libye. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer aussi que la situation pourrait être différente et qu'il suffirait qu'on ait un tout petit peu plus de courage politique en Europe, et notamment qu'on arrête de financer la Libye pour pratiquer le contrôle migratoire, ce qui est le cas actuellement, pour que la situation aussi puisse de ces personnes puisse s'améliorer. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un stade où l'état de traumatisme dans lequel ces personnes arrivent, quand elles arrivent, bien entendu, parce qu'il faut rappeler aussi que, comme je dis dans le livre, hein, ces femmes, ce sont des survivantes, et une grande partie des personnes qui traversent ces épreuves décèdent en route, que ce soit en Libye ou en mer. Il faudrait qu'il y ait des prises de responsabilité politique de ce point de vue-là. Il faudrait avant toute chose cesser toute forme de coopération avec la Libye.
Shattered in a thousand pieces, weeping in the darkest night. Hey there, you, trying to stand up on your own two feet and stumbling through the sky. When the lights go out and you're on your own, how you gonna make it through till the morning sun? Sing to the moon and the stars will shine over you, lead you to the other side. Sing to the moon and the stars will shine over you, heaven's gonna turn. For a brighter season, need to lay a burden down. Hey there, you, drowning in a helpless feeling, buried under deeper ground. And when the lights go out, it's a waiting game. Never gonna see a day when your world will change. Sing to the moon and the stars will shine over you, lead you to the other side. Sing to the moon.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans la revanche des hérissons. On vient d'écouter Sing to the Moon de Laura Mvula. Dans cette émission, on parle de frontières et de femmes en mouvement avec Camille Schmoll. On parle aussi de politique européenne des frontières, à la fois sur le territoire européen et sur d'autres territoires, où l'Europe externalise ses frontières, notamment à travers les politiques d'aide au développement.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément là, les effets des partenariats financiers entre l'Union européenne et d'autres pays, et ben, notamment leur impact concret sur la vie des femmes qui migrent ?
En fait, ça fait assez longtemps maintenant que l'Union européenne a pensé déléguer le contrôle migratoire en amont à toute une série de pays, des pays du voisinage, mais d'un voisinage aussi un petit peu lointain parfois. Et ça, cette politique-là, c'est vraiment, disons que c'est un des aspects de la politique migratoire sur lesquels les pays européens parviennent à se mettre d'accord. Ils ont beaucoup plus de mal à se mettre d'accord sur la solidarité intra-européenne, la redistribution des demandeurs d'asile à l'intérieur du territoire européen et des réfugiés, mais par contre sur ce qui est de la coopération avec les pays tiers, il y a quand même un certain consensus, et donc on connaît la politique de coopération avec la Turquie au sujet des migrations syriennes, on connaît effectivement aussi la politique de coopération avec les pays de l'Est africain, donc le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie, qui a été renforcée depuis 2015, l'année un peu la plus importante dans ces années de dite crise migratoire qu'on a traversée. Et donc, effectivement, la coopération s'est renforcée avec ces pays. Alors, très précisément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire utiliser une partie du fonds d'aide au développement de l'Union européenne pour encourager ces pays à renforcer l'aide migratoire. C'est-à-dire conditionner l'aide au développement, le contrôle migratoire, pardon. Donc, ça veut dire conditionner l'aide au développement au contrôle migratoire. Concrètement, ça veut dire que de plus en plus des polices spécifiques sont financées pour contrôler, pour éviter que les personnes puissent à la fois quitter le pays ou traverser le pays, puisque ça vaut aussi bien pour ces pays en termes de pays de transit ou en termes de pays de départ, et puis enfin aussi accepter aussi les rapatriements vers ou les pays de départ ou les pays de transit. Donc, c'est quelque chose qui est pratiqué dans de nombreux pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, à travers deux protocoles de l'Union européenne que sont celui de Rabat et celui de Khartoum, et qui a des impacts très très sérieux sur les trajectoires migratoires, sur la vie des gens. Moi, je suis pas spécialiste, mais il y a beaucoup de d'organisations qui ont produit des rapports sur ces politiques. Ce que je peux dire, c'est que moi, dans mes enquêtes, je rencontre des gens qui ont été arrêtés, qui ont été renvoyés, qui ont été qui ont très clairement été pris dans les mailles de ce type de dispositif et qui repartent tout de même, qui reprennent quand même la route. On est face à des trajectoires qui sont de plus en plus longues, avec des embûches de plus en plus importantes, mais malgré tout, les gens reprennent la route, et c'est ça qui est assez terrible. Donc ça évidemment avec des drames le long des trajectoires, mais c'est-à-dire qu'en fait ces dispositifs-là d'externalisation du contrôle migratoire, de coopération avec les pays tiers, ils sont peut-être pas si efficaces qu'on le pense, et en plus, ils sont évidemment moralement extrêmement condamnables. Donc ils ont tout pour plaire, j'ai envie de dire, sans compter que je pense que les citoyens européens ne se rendent pas compte de la quantité, j'ai pas les chiffres là précisément en tête, mais j'en parle un petit peu dans le livre, la quantité d'argent qu'on dépense pour financer de telles politiques, c'est absolument vertigineux.
Nous, on se demandait un peu comment, sur leur parcours, les femmes, elles s'organisent pour faire face à ces obstacles. Est-ce que toi, c'est quelque chose qu'elles t'ont raconté ? Est-ce que, aux différentes étapes de leur parcours, comment elles s'organisent ensemble pour faire face à ces obstacles, notamment créés par les conséquences des politiques européennes et pas que ?
Alors c'est très circonstanciel, c'est vraiment lié au moment de la trajectoire, mais c'est vrai que j'ai essayé de mettre en évidence dans le livre le fait que les femmes, elles sont quand même, il y a des formes de solidarité importantes qui émergent au fil du chemin. ça c'est évident. Il y a des choses qui se passent entre les femmes, parfois même des femmes qui se connaissaient pas hein, avant de se retrouver en route et qui par ailleurs ne parlent pas toujours la même langue, ne partagent pas grand chose au départ, mais qui vont se retrouver ensemble et qui vont faire front contre les obstacles ensemble. Donc ça, j'ai retrouvé ça à la fois dans les récits de leur trajectoire, mais aussi dans leur vie quotidienne. Une fois qu'elles sont en Europe, on va s'appuyer sur telle ou telle connaissance, sur telle ou telle personne qui est présente. C'est très vrai, par exemple, dans le soin apporté aux enfants. C'est quelque chose qui devient en quelque sorte qui est pris en charge par le groupe de femmes et ça c'est impressionnant, mais on retrouve ça à de nombreuses étapes hein. C'est quelque chose de fort. Après, il y a plus généralement, pas seulement entre les femmes, il y a vraiment des formes de coopération ponctuelles qui se mettent en place au fil de la trajectoire. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'entraide malgré tout. Il y a des gens qui vont vous prêter quelque chose à un moment donné, vous transmettre un contact, vous prêter de l'argent, vous aider. Alors il y a aussi des formes d'exploitation absolument terribles, mais on peut dire qu'il y a des solidarités circonstancielles qui se tissent au fil de la trajectoire. Oui. Par exemple, même pour, je ne sais pas, certaines femmes ont fait plus d'études, elles ont plus de connaissances, elles connaissent mieux la route, ou alors elles vont être capables de jouer les interprètes quand il y a besoin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place de ce point de vue-là. Et on voyage très rarement seul, c'est-à-dire que ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que finalement, on a cette image des femmes on imagine que les femmes en migration, c'est ou les suivantes qui suivent leur mari, donc regroupement familial, ou alors des femmes qui prennent la route toutes seules. Bon, en réalité, il y a toutes sortes de configurations. Il y a des femmes qui partent avec leurs frères ou leurs sœurs, par exemple, mais il y a aussi toutes sortes de personnes qui, certes, partent seules, mais qui, en réalité, ont un entourage autour d'elles. On voyage jamais complètement seul. De toute façon, c'est des voyages en groupe. Hein. Donc, il y a des groupes qui se forment et il y a des liens qui se tissent. Après, il y a aussi des obstacles aussi terribles. Et c'est l'autre aspect de ces trajectoires, c'est qu'elles ont toutes vu les gens qui voyageaient avec elles, mourir en route, enfin elles ont vu des choses absolument, elles ont assisté à des choses, elles arrivent aussi, je dis que c'est des survivantes, mais c'est aussi des témoins. C'est des témoins d'une histoire absolument terrible dont on sait encore bien peu de choses finalement.
Et on voulait aussi te poser une question par rapport à l'arrivée des femmes en Europe. Toi, tu parles d'un archipel de la contrainte. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu entends par là ?
Oui, je parle d'un archipel de la contrainte pour parler de l'arrivée des femmes en Europe, parce que La première partie du livre est consacrée à leur trajectoire, donc je décris ce qu'elles vivent, c'est-à-dire des choses absolument terribles au fil de leur trajectoire, et je me dis, on pourrait se dire, bon, voilà, ça y est, elles arrivent, elles ont passé la Méditerranée, elles posent le pied en Europe, et ça y est, on pourrait espérer qu'elles sont en quelque sorte... D'ailleurs, beaucoup d'histoires se terminent à ce moment-là. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent ces traversées terribles, s'arrêtent là, et on pense que une fois qu'elles sont en Europe, elles vont a priori pouvoir faire une demande d'asile ou demander en tout cas un titre de séjour et que les choses vont s'améliorer. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque moi, quand je les rencontre, elles sont en Europe et elles sont déjà complètement dans la déception, dans le... Au début, elles disent, comme je vous l'ai dit en début d'émission, au début, elles disent, ce n'est pas l'Europe, ce ne peut pas être l'Europe, c'est pas possible, je ne reconnais pas l'Europe dans ce que je vis. Et effectivement, parce qu'en fait, elles alternent des phases où elles passent par différents types de centres. Alors, il y a des centres d'identification où on va trier les femmes et les hommes, bien entendu, selon que ce soit des vrais ou des faux demandeurs d'asile, par exemple, puisqu'il y a toute une série de pays qu'on considère comme des pays sûrs et donc on considère que ces personnes-là ne sont pas légitimes à demander l'asile. Et puis si jamais elles sont considérées comme légitimes, bon, elles vont être logées dans des centres pour demandeurs d'asile, mais selon les pays, selon les lieux, selon les situations de ces femmes, certaines vont vivre dans des conditions semi-carcérales. les centres d'accueil, ce qu'on appelle les centres d'accueil, qui n'ont d'accueil que le nom souvent, sont des centres très isolés, parfois avec des conditions véritablement carcérales, puisque certains des centres pour demandeurs d'asile sont des centres complètement fermés, notamment à Malte. Et donc, elles vont vivre une condition, oui, semi-carcérale, alors qu'elles n'aspirent qu'à poser leur valise quelque part où elles puissent, d'une manière ou d'une autre, trouver leur place, comme elles le disent. Et en fait, je parle d'archipel de la contrainte parce que souvent, elles sont déplacées à l'intérieur entre ces différents centres. Donc elles vont passer d'un centre à l'autre, mais il va falloir des mois, voire des années, avant que leur situation puisse s'améliorer un tant soit peu par le biais de l'obtention, finalement, d'un titre de séjour, en fait.
Est-ce que tu peux nous redire un peu les différents types de centres par lesquels elles passent et à quoi ils sont censés correspondre?
Et en gros, il y a d'abord les fameux hotspots, qui sont ces lieux donc qui existent en Italie, en Grèce, mais qui existent aussi à Malte, même si le centre à Malte ne porte pas le nom d'hotspot. Et en fait, donc, ce sont des lieux là où on va véritablement trier ce qui est de l'ordre de quelqu'un qui ressemblerait à un demandeur d'asile légitime et puis quelqu'un qui n'est pas légitime à demander l'asile. Donc cette personne-là sera renvoyée ou on lui donnera qu'on appelle en France un OQTF, hein, donc on lui donnera un document lui signifiant que cette personne doit quitter le territoire. Et puis après, il y a des centres pour demandeurs d'asile et pour demandeuses d'asile, donc ce sont des lieux qui sont souvent pas mixtes, où elles se trouvent entre femmes et où elles vont être logées le temps de déposer une demande d'asile. Ces lieux, ils varient beaucoup entre eux, parce qu'il y a des lieux qui sont justement très fermés. C'est le cas à Malte, puisque Malte pratique l'enfermement quasiment systématique des demandeurs d'asile, ce qui est quand même très grave. Alors qu'en Italie, par exemple, certaines demandeuses d'asile vont être enfermées, mais la plupart vont se retrouver plutôt dans des centres dits ouverts, mais même à l'intérieur même de ces centres ouverts, il y a des centres qui sont en cœur de village ou qui sont dans des situations relativement où on peut sortir faire un petit tour, où on peut les dortoirs ne sont pas complètement surpeuplés. Et puis la plupart des lieux que j'ai vus, hein, ce sont plutôt des lieux assez grands avec des conditions de logement très 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 mauvaises et où les femmes vont rencontrer toutes sortes de problèmes liés à la proximité, liés à la question de l'hygiène, liée à l'accès à la nourriture, mais aussi liée au contrôle dont elles sont l'objet sans cesse. Avec la Covid, on a la question des normes sanitaires qui s'est rajoutée au reste et qui fait que actuellement, quand les personnes arrivent aux frontières méditerranéennes, elles doivent aussi être mises à l'isolement et subir toute une série d'examens. Souvent, c'est fait dans des bateaux, donc ces personnes vont rester encore pour une semaine, deux semaines, voire plus. Parfois, il y a eu des cas absolument terribles, notamment à Malte, où les personnes étaient parquées sur des bateaux. Et puis alors, pour peu qu'il y ait un cas de Covid, ça devient absolument cauchemardesque. Et donc, où les personnes attendent d'enfin pouvoir être débarquées une fois qu'elles auront passé leur test, leur quarantaine, pour ensuite aller dans un hotspot.
Mais les hotspots, on est d'accord que normalement, c'est censé être des endroits très, très transitoires.
C'est des lieux tout à fait transitoires, oui. C'est 2-3 jours, même si, en fait, la norme n'est pas toujours appliqué. On a des situations de personnes qui restent 30-40 jours, y compris des mineurs, dans des conditions absolument terribles, alors que le passage devrait être quelque chose, le passage par ces lieux devrait être effectivement rapide. Big bold women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And they come and get you, armored up my sweater. Gonna get a female, betcha, she gon' catch you. Big bold women, gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain instead of those. She work fighting, now still got time for the metro. Dancing night away and forget about the echoes of the ghetto. Cocking echoes, so she never leave together. Gotta tell them, give some ammo, cause in time she gon' gonna let go, she a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, 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 F-E-M-A-L-E.
On vient d'écouter Sampa the Great dans La Revanche des Hérissons et on poursuit avec l'interview de Camille Schmoll au sujet des frontières et des femmes en Méditerranée.
Oui, et puis parce que quand même, peut-être ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a un droit d'asile qui existe. Et du coup, que là, ce que tu racontes, en fait, tout ce que mettent en place et l'Italie et Malte, en tout cas au niveau de, j'ai envie de dire, l'accueil, entre guillemets, de ces femmes, ça va contre... Enfin, tu parles de criminalisation du droit d'asile et de criminalisation de la migration, mais en tout cas, ça va contre ces conventions européennes et qui existent.
Toute personne, contre notamment la Convention de Genève, toute personne doit être en mesure de demander l'asile. Or, certaines personnes en sont empêchées en amont. Les délais sont absolument inadmissibles. Ensuite, ça va contre parce que la question de l'emprisonnement est très problématique, et notamment l'emprisonnement, la détention des mineurs, hein, ce qui est quand même pratiqué. Ça, c'est absolument contraire aux conventions internationales sur les droits de l'enfant, par exemple. Il y a une espèce de torture psychologique, c'est-à-dire que ça dure des mois et des mois, puisque effectivement, le passage en hotspot, il n'est pas forcément très long. C'est ce que Michel Agier appelle le couloir des exilés, c'est que on passe de centre en centre, on passe de lieu en lieu, et la situation ne s'améliore pas. Là, on est toujours dans la même situation, suspendue, ou qu'on soit en demande d'asile, mais que les temps d'obtention d'un statut sont tellement longs qu'on reste des mois, voire des années dans l'attente, ou qu'on n'ait pas la possibilité de demander de l'asile, et dans ce cas-là, on est complètement irrégulier. Et là aussi, il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. En Italie, il était, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il était assez facile d'avoir des papiers. Une quinzaine d'années plus tôt, pardon. Il était assez facile d'avoir des papiers. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des papiers en dehors, un titre de séjour, en dehors de ce circuit de la demande d'asile qui est complètement, par ailleurs, qui n'est pas du tout efficace.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment les femmes que tu as rencontrées, elles font face justement à l'enfermement dans ces différents lieux par lesquels elles transitent en arrivant en Europe ?
C'est très dur, c'est très... Encore une fois, il faut imaginer la situation de traumatisme dans lequel elles arrivent une fois qu'elles arrivent en Europe. Hein. Nombre d'entre elles, enfin presque toutes d'ailleurs, hein, elles ont été violées, elles ont vécu des choses absolument atroces en route. Et elles arrivent en Europe en espérant enfin pouvoir se poser un petit peu et recommencer finalement à vivre et de façon à peu près digne, à peu près correcte. Et en fait, elles vont de désenchantement en désenchantement, mais surtout et de déconvenu en déconvenu. Mais elles vont en même temps essayer de mettre en place des tactiques, j'ai envie de dire, pour se sortir de ça. Donc les tactiques, bon, il y en a pas 50. Hein. Une possibilité, ça peut être de réussir d'une manière ou d'une autre à s'appuyer sur des contacts qu'on aurait, donc des personnes qu'on connaît et qu'on va pouvoir solliciter pour vous héberger, pour vous aider. C'est ce que font la plupart des migrantes et des migrants. Hein. Les réseaux communautaires, bon, on a toujours tendance un peu à tout ce qui ressemble à du communautaire à le stigmatiser, mais en réalité, en France, ça a toujours été le cas. Je veux dire, il y a toujours eu des réseaux communautaires pour appuyer les Italiens, les Turcs, les Marocains, toutes les personnes qui arrivaient étaient en quelque sorte prises en charge et c'était ça qui permettait aussi à ces personnes, à un moment donné, de trouver un travail, de trouver un logement, etc. Et donc les femmes, bah, elles sont comme toutes ces personnes-là, elles vont solliciter des proches pour les aider. Mais le problème, c'est que actuellement, ces femmes, quand elles arrivent en Europe, elles sont immobilisées et elles n'ont pas le droit d'aller où se trouvent leurs proches. Et donc, c'est un des grands problèmes. Donc, souvent, elles vont s'échapper. Donc, ce que je raconte dans le livre, c'est que ben, y en a beaucoup qui partent en Allemagne, qui partent aux Pays-Bas, qui partent dans les pays scandinaves, qui partent en Angleterre, où elles peuvent trouver en France, où elles peuvent trouver des amis, des proches, des voisins, d'anciens collègues, tout ce qu'on veut, pour les aider. Et puis, malheureusement, effectivement, la régulation européenne sur ces questions-là, sur l'asile étant ce qu'elle est, elles sont renvoyées souvent dans les pays, dans les premiers pays d'entrée en Europe, parce que elles n'ont pas le droit d'aller séjourner dans un autre pays européen. Donc, elles mettent en place des choses pour essayer de s'en sortir, mais malheureusement, elles se heurtent à la question de la loi et puis de la façon dont aujourd'hui les migrations sont réglementées en Europe, qui fait qu'elles vont être obligées souvent de repartir du lieu qu'elles ont laissé en Europe. Et là, il y a une espèce de jeu de loi infernale qui se met en place et qui fait qu'on a des trajectoires qui durent des années, faites d'aller-retour entre Malte et les pays scandinaves, entre l'Italie et la France, etc. Donc elles vont essayer de passer entre les mailles, en quelque sorte, et de se construire malgré tout une vie, y compris dans l'irrégularité, c'est-à-dire sans papier, pour améliorer leurs conditions.
On a parlé et du trajet et des lieux d'arrivée, et du coup notre question elle est comment les politiques migratoires européennes, à ces différentes étapes du trajet des femmes, elles participent et elles reproduisent les violences contre les femmes ?
C'est une question très importante. Pour moi, on ne peut pas distinguer la question des politiques migratoires européennes de la question du genre et des politiques qui sont vouées spécifiquement à traiter, prévenir les violences de genre, les violences dites sexo-spécifiques. Les deux sont intimement liés et on ne peut pas prétendre d'un côté aider les femmes et de l'autre continuer avec les politiques migratoires qu'on connaît. Parce qu'en réalité, ces politiques produisent de la violence, hein, comme j'ai essayé de le dire pour les pays auxquels on délègue le contrôle migratoire, mais c'est vrai aussi en Europe, si bien qu'on peut dire que l'Europe du Sud, finalement, c'est pour l'Union européenne, c'est une marge utile qu'on utilise pour pratiquer, là encore, du contrôle migratoire. Et en fait, c'est ce qui se passe en Grèce, on le sait bien, sur l'île de Moria, mais pas seulement, mais c'est l'exemple qu'on prend souvent, parce qu'il y a des situations à Moria, du fait des conditions dans lesquelles sont les demandeurs d'asile, du fait de la situation dans les camps, de la promiscuité, des difficultés sur place. Il y a des situations de violence envers les femmes absolument terrible, et c'est le cas également en Italie, c'est le cas également à Malte. La vérité, c'est que si on essaye de traiter la violence de genre comme une violence qui est décontextualisée, qui n'est pas en relation avec la situation migratoire des personnes, on peut rien faire. Donc l'important, c'est d'une part de traiter la violence de genre comme une violence qui est liée au contexte, et notamment au contexte de politique de contrôle migratoire, ça c'est une première chose, donc de considérer que le contrôle migratoire lui-même produit de la violence de genre, et que donc on peut pas déconnecter l'une de l'autre, la violence de genre d'autres types de violences. Et puis, par ailleurs, considérer qu'il y aurait des moyens d'agir sur les violences faites aux femmes, à condition de faire en sorte que le type de trajectoire que je décris dans le livre, qui sont des trajectoires qui sont ponctuées de violences et qui ne concernent pas que les femmes d'ailleurs, qui concernent les femmes, les hommes et les enfants, ne puisse pas être possible, tout simplement parce qu'on créerait d'autres façons de migrer pour les personnes. Hein. C'est pas complètement fou d'imaginer un monde où les personnes auraient, même si c'est difficile à avancer comme discours aujourd'hui, les temps sont un petit peu durs pour ce type de discours, mais c'est pas complètement fou d'imaginer que les gens puissent se déplacer plus librement, puissent avoir, des documents qui leur permettent de voyager autrement que dans de tels, dans les contextes que je décris dans le livre qui sont épouvantables. On peut imaginer créer des visas humanitaires ou d'autres types de visas qui permettraient aux personnes de se déplacer. Il ne faut pas oublier non plus que quand on travaille sur les migrations, la plupart des personnes qui peuvent circuler, qui peuvent se déplacer, ne s'installent pas et au bout d'un moment repartent quand elles peuvent repartir. Donc penser que évidemment ça n'épuise pas la question ce que je dis là, mais penser que il faut surtout pas aider les gens à venir d'une façon différente parce que sinon ils vont tous s'installer chez nous et on n'aura plus de place, c'est une façon très très réductrice d'envisager la question des migrations. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai commencé en travaillant sur des personnes qui circulaient et à l'époque ça posait aucun problème parce que tout le monde comprenait que on pouvait vivre entre deux pays, circuler entre les deux pays et que c'était pas forcément un problème. Aujourd'hui, on a tellement criminalisé les questions migratoires que ça nous semble complètement fou d'envisager que des gens puissent se déplacer librement d'un pays à l'autre et faire des allers-retours et éventuellement se réinstaller au pays de départ à un moment donné, si les circonstances le permettent. Et penser qu'on investit autant d'argent pour immobiliser les gens, pour leur rendre des trajectoires difficiles. Et puis aussi, il y a un autre problème qui est le fait qu'on ne reconnaît pas aussi les violences subies en route. C'est-à-dire que la politique... une politique qui s'intéresse aux questions de genre, véritablement, devrait aussi comprendre, intégrer les violences subies en route, et puis surtout ne pas perdre, là aussi, la dimension politique de ces violences subies en route. Ces violences subies en route, là aussi, bien sûr, il faut aider les femmes qui ont subi ces violences, il faut les aider à et ça c'est pas gagné, hein, à guérir de leur à vivre avec leur traumatisme, il faut les aider de tous les points de vue, il faut évidemment les soutenir, et c'est pas toujours le cas non plus dans leur demande d'asile, mais il faut aussi trouver les moyens d'arrêter ces violences. Et pour le moment, le problème des politiques en faveur des femmes, c'est qu'elles se posent surtout la question de, et pas toujours encore, de la prise en charge de ces femmes, mais jamais de comment faire en sorte que les États qui sont traversés par ces femmes et ces hommes cessent de pratiquer cette violence envers ces hommes et ces femmes.
Mais du coup, est-ce que tu dirais que l'abolition des frontières sera un moyen de lutte contre les violences faites aux femmes ?
Alors, je ne sais pas si c'est l'abolition des frontières. Il faudrait vraiment réfléchir à différents scénarios. Il y aurait plusieurs degrés, en fait, hein. L'abolition des frontières, c'est la version la plus, disons, la plus poussée. j'ai tendance à penser, malheureusement, que c'est une utopie. Abolir les frontières, ce serait aussi renoncer à des formes de souveraineté, et je pense que les États sont pas prêts pour ça, mais en tout cas envisager déjà des formes de déplacement plus fluides. On vit déjà dans un monde, bon évidemment les choses sont un petit peu mises en parenthèse en ce moment, mais on vit dans un monde quand même où les déplacements sont rendus possibles pour toute une partie de la population mondiale. Pourquoi se déplacer? Pourquoi passer des moments dans un autre pays, passer une partie de sa vie dans un autre pays parce que ça fait, parce que c'est une expérience, parce que c'est quelque chose d'important pour tout le monde de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer. Pourquoi ça devrait être restreint à une partie du monde et pas à l'ensemble? Déjà, si on pouvait mettre en place ça, ce serait bien. Et puis après, évidemment, faire tomber les frontières, mettre en place des formes d'appartenance, de citoyenneté qui dépassent les confins des États-nations, ce serait encore mieux.
Et alors, on avait deux questions un peu pour finir. La première question qu'on avait envie de te poser, c'est qu'est-ce que ce travail et du coup ta perspective de travail féministe, elles ont changé dans ta compréhension et ta définition de la frontière ?
Tout. Mais de toute façon, je dois presque tout aux féministes. D'abord, parce que... pour moi, la géographie politique, avant de m'intéresser à ce que faisaient les géographes politiques et féministes, c'était un sujet très ringard. Ça m'attirait pas du tout. Et puis les féministes m'ont fait comprendre qu'en fait, la frontière, c'était avant tout quelque chose, le passage de frontières ou même les politiques frontalières. C'était quelque chose qui était incorporé, quelque chose qui était vécu, expérimenté sur le corps même des femmes et des hommes. Et que en fait tout était politique, y compris le vécu au quotidien de la frontière et dans la frontière des femmes. Ce sont aussi les féministes qui m'ont fait comprendre à quel point la violence de genre était un sujet politique. En fait, c'est vraiment les féministes qui m'ont ouvert les yeux sur toute une série d'aspects qui caractérisent les trajectoires migratoires.
Et alors, ton livre, il s'appelle Les Damnés de la Mer, ce qui est une référence à Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre. Et on s'est demandé quel parallèle ou quel héritage de Fanon tu tirais.
Alors, c'est plus un clin d'œil à Frantz Fanon que d'avoir nommé le livre Les Damnés de la Mer. Mais c'est important quand même parce que Les Damnés de la Mer, c'est un livre révolutionnaire. Et Les Damnés de la Terre, pardon, c'est un livre révolutionnaire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas réfléchir au rapport du pouvoir et à la façon dont, finalement, je raconte dans le livre comment les femmes mettent en place des tactiques dans la frontière, des stratégies pour essayer de prendre des marges d'autonomie par rapport au rapport de pouvoir. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut pas réfléchir au rapport de pouvoir dans le monde sans parler des migrants et des migrantes. Les migrations sont devenues un élément essentiel de relations de pouvoir, de relations d'oppression, de relations d'exploitation, mais qui sont aussi des formes et qui nous invitent aussi à regarder les formes de résistance.
Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes. Ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qui haïssent. Ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais plus inscrit en lettres capitales. Sans drapeau, sans couleur, sans base gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement, c'est tari par escale. Entre charter, expulsion, univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus, pas d'être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Une brèche, une guerre à ciel ouvert. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. On ne croit plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental. À qui je souhaite un examen de conscience radical. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés. Après ma mort, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront des viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. Que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur l'arbre échancelante et la branche, ils ont scié. C'est un rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers. Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar. Quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir. Les murs se taisent, nos morts sursaignent. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que tant pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus, pas d'être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Une brèche, une guerre à ciel ouvert.
C'était Lagal, le passage d'une frontière. Et donc, on est arrivé au bout de cette interview de Camille Schmoll. Vous êtes toujours dans La Revanche des Hérissons. Et du coup, Camille Schmoll parlait de son livre Les Damnés de la Mer, Femmes et frontières en Méditerranée. Avant de se quitter, on voulait d'abord la remercier pour le temps qu'elle nous a donné et aussi donner deux ressources pour approfondir ou éclairer le sujet un peu autrement. La première, c'est un journal qui est issu de Calais, dans le nord de la France, qui s'appelle le Journal des Jungles, et il se trouve que le numéro 13 est intitulé « Femmes traversant la frontière ». Et c'est le travail, c'est un travail issu d'une résidence en non-mixité femmes, et le numéro est téléchargeable sur le site psmigrants.org. PS comme plateforme solidarité migrants. Et sinon, on voulait aussi mentionner l'existence de chroniques amères, en deux mots, mais avec un accent sur le A, qui sont diffusées elles aussi sur Jet FM, entre autres, le premier jeudi de chaque mois. Ces chroniques rendent compte de ce qui se joue autour de l'alarmphone, un numéro téléphonique d'urgence utilisé par les gens qui traversent la Méditerranée lorsqu'ils se retrouvent en détresse. L'épisode 2 s'appelle « Femmes en mouvement » et aborde ces questions aussi depuis le point de vue de celles qui ont fait la traversée. Les hérissons, c'est fini pour aujourd'hui. À bas les frontières et à bientôt.
C'était la rediffusion de l'émission Une analyse féministe des frontières proposée par l'émission Non mais genre.